Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr et aujourd'hui en direct sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Mais si vous êtes en direct, Arnaud Valadon, Fred Weiss et Stephen Brun, bonjour.
Salut mon petit Pierrot.
Salut tout le monde.
Vous êtes pas sur votre 31 comme on dit là. Vous êtes pas sorti la plus belle liquette.
En fait, j'avais une chemise, mais il fait 47 degrés.
Non, sérieusement, sauvage en plus.
Moi, j'ai pas besoin de grand chose pour.
Moi, j'ai l'impression que ce pull-là, un mardi, on est déjà sur un back-to-back.
Jamais de back-to-back. Hier, j'avais un gris sans motif.
D'accord.
Jamais de back-to-back.
Ah, ce pull-là, tu l'avais avec Guillaume Guirado la semaine dernière.
Voilà. J'ai pas un dressing. Moi, je garde mes fringues jusqu'à la corde.
Combien de temps pour t'habiller le matin? Tu ouvres le dressing?
4 minutes.
On est sur une réflexion ou on prend ce qu'il y a?
On prend ce qu'il y a.
D'accord.
Et je sache que j'use mes fringues jusqu'à ce qu'elles ne soient plus métables. C'est pour ça que des fois j'ai l'air d'un clodo.
Mais quel est le critère d'un vêtement plus métable? C'est quand Valérie, ton épouse, te dit arrête.
C'est moi qui décide.
On salue les viewers sur Twitch pour ce début d'émission. Hein.
C'est pour ça qu'on fait un petit point
vestimentaire,
un petit point SAP. Alors sur Arnaud et
là, on est sur du back to back sur le
sweat, on est vraiment sur un sweat basket de base quoi.
Super dry, c'est un sweat que t'as gratté ça non
même pas.
Quand t'as Stephen, t'as sorti
les soldes.
Le t-shirt Uniqlo bon, d'une couleur suspecte tout de même hein. ce petit orange
pour le teint
fade avec un jean noir, c'est un beau combo je trouve.
Très bien. Alors le programme du jour, c'est un spécial Russell Westbrook. Le problème des Lakers, est-ce Russell Westbrook? C'est notre premier débat parce que les Lakers sont mal engagés quand même dans cette saison. Et puis, alors là, attention, Westbrook est-il passé à côté de sa carrière? Ça va être chaud parce que je le sais déjà, vous n'êtes pas tous d'accord sur la question. Dans la partie historique, vous me direz qui est selon vous le pire shooter de l'histoire. Et il y a certains spécimens quand même qui ont des mécaniques de shoot un peu curieuses, un peu suspectes. Je sais pas si vous avez déjà fait votre choix. Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Fred, t'en as choisi un
mec avec qui j'avais joué.
Ah, j'aime
à
ça.
À qui j'ai envie de mettre un petit taquet.
J'aime ça. Steve, t'as choisi un ancien partenaire?
Non, mais j'ai fait hommage à la France.
Ah, hommage à la France, j'aime aussi. Rendez-vous tout à l'heure quand ton quiz il sera consacré aux Lakers.
Voilà. Ah ouais, je crois que c'était les Bulls.
Non, ce sera les Lakers. D'accord. Ce sera pas Russell Westbrook parce que c'était un peu trop spécifique. On est prêt, on est parti. Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr et on démarre avec le début de saison Kata des Lakers.
Shot clock at 8. Down the middle goes Walker. Count it and one.
On the year, 25 for 118. 25. That's 21%. In the history of the NBA with at least 83 three-point attempts, that's the worst.
Reeves. Got it.
Lonnie with speed. Lonnie all the way. Scoop it up and in.
You can't have a 7-point lead and give it away with poor execution down the stretch. That can't happen.
LeBron behind the back. LeBron all the way. LeBron scores.
You know, you can't lose possessions on quick shots and not making the defense work.
Logo three for LeBron. A logo three and it didn't draw iron.
Alors, les Lakers sont derniers à l'Ouest. Les Lakers sont catastrophiques au tir, d'où notre débat historique. Hein, je l'ai pas précisé il y a un instant. Les Lakers n'en peuvent déjà plus de Russell Westbrook. Chose rare, il a été sifflé par le public et c'est pas du tout dans les habitudes et dans la culture de la NBA. Le problème des Lakers, est-ce Russell Westbrook? Alors, coupable entre autres d'un choix aussi catastrophique lors de la fin de match contre Portland. Portland qui, à l'inverse, est leader à l'Ouest.
Est-ce qu'il est vraiment catastrophique, ce choix?
Oui.
Est-ce que l'exécution est mauvaise, le choix n'est pas si mauvais?
Alors, si tu veux, on peut démarrer par là. Puisque les Lakers, qui menaient de 8 points, sont rattrapés par Portland, il reste 30 secondes, une trentaine de secondes, ils ont la possession. Et qu'est-ce qui se passe, Arnaud?
Et en fait, Westbrook part tout seul. Il est, les joueurs de Portland ne défendent pas sur lui. Il le garde à distance. Il prend un petit tir, ce qu'on dit dans la zone intermédiaire, voilà, à 5-6 mètres au périmètre.
Ouvert.
Ouvert. Et il reste 18 secondes sur l'horloge. Donc il y a seulement 12 secondes. Il y a 30 secondes sur le chrono et 18 secondes sur la possession. Il prend un tir. Il y a LeBron James à l'opposé qui lève un peu les bras. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait un peu? Anthony Davis, lui, est en train d'arriver. Donc ils ont poser aucun système, on est sur une fin de match voilà sérieuse et il prend un tir qui ça finit sur une brique et moi je trouve que c'est quand même un très mauvais choix
sachant
de jeu.
Qu'il était à 0 sur 10 à ce moment-là à non. 3 points non
il avait mis
c'est pas ça
c'était pas 3 points c'était un tir à 2 points ça
c'est un tir à 2 points
c'est un 2 points d'accord mais c'est pas le
match d'avant il met pas un tir c'est le match d'avant
d'accord
mais il est pas en confiance
et pourquoi tu dis Fred que c'est pas forcément le mauvais choix
ben alors le choix est pas mauvais parce que encore une fois il reste 30-35 secondes. Le mec va shooter, il joue tout pour 2 plus 1. C'est-à-dire que deux shoots pour lui, un shoot pour l'équipe en face. Moi, je pense pas que ce soit un mauvais choix.
Non, le mauvais choix, c'est qu'il soit sur le terrain, c'est qu'on laisse sur le terrain.
À ce moment du match, faire ce choix-là, c'est pas un mauvais choix. Après, l'exécution est très mauvaise. Prends un shoot extérieur alors que tu peux pénétrer, que t'as Nurkic qui a 5 fautes en plus, tu peux essayer d'aller l'attaquer, aller près du cercle, ça, je suis d'accord. Sauf que le choix de shooter à ce moment-là, il est pas mauvais en soi.
Ouais, mais Fred, le 2 plus 1, moi, je l'entends la théorie du 2 plus 1, mais quand c'est un match qui se joue, que c'est une fin de match ou que t'es à plus 1, moi, je le comprends pas, en fait. Le 2 plus 1, ça veut dire que tu peux garder le ballon et manger le chrono et prendre un tir quelconque, quand il reste 10 secondes sur la possession et que tu rates, c'est-à-dire que tu forces l'autre équipe à marquer, ça veut dire que toi, t'es obligé de marquer deux fois si jamais tu prends un panier des Trail Blazers. C'est-à-dire que t'es obligé de marquer au moins un panier pour gagner.
Ne méprends pas, c'est pas le choix que j'aurais fait. Je dis simplement qu'il peut s'expliquer et qu'il peut s'entendre. D'ailleurs, même son coach le dit. Finalement, le fait de faire ça, intellectuellement, ça peut s'entendre. Mais encore une fois, le choix du shoot en lui-même est très mauvais, par contre.
Ouais, et surtout quand tu n'as aucune confiance en
ben c'est ça.
À ce moment-là.
C'est pourquoi
il est sur le terrain à ce moment-là aussi, peut-être. Moi, je pense que dans cette fin de match serrée, surtout que je crois que c'est là où Westbrook est remis alors qu'il y a plus suite pour les Lakers et il y a l'avance qu'ils font pendant que Westbrook est sur le parquet. Quand on connaît, voilà, c'est compliqué pour cet ancien MVP sur le terrain en ce moment, le public qui le hue, allez, on vaut mieux qu'il soit sur le bord du terrain à pas être content de pas jouer, mais au moins tu mets peut-être un 5 qui a une chance de s'en sortir.
Ouais, mais en même temps, il marque ce panier. Et ça le relance complètement peut-être aussi en termes de confiance. Donc c'est un pari. Il y a que 3 matchs de jouer. Alors ils peuvent pas être plus mauvais en termes d'adresse que ce qu'ils sont en train de proposer jusque-là. Donc je me dis, moi c'est un choix du côté de Ham.
Encore une fois, c'est une équipe qui est pas coachée. Parce que si t'as un vrai coach sur le terrain, il y a quelque chose qui est dessiné, il y a un ordre donné sur le banc de touche, il y a peut-être un temps mort pris par Davin Ham, mais il y a aucune décision prise par Davin Ham. Il laisse, comme souvent en NBA dans certaines équipes, le choix aux joueurs de décider. Maintenant, Russell Westbrook, puisque c'est ça le...
Alors, après, il a été défendu par LeBron James. Alors, oui. Bien sûr, c'est une posture classique, il ne va pas l'assassiner, bien sûr, mais malgré tout...
Il ne l'assassine pas, celui qui l'a fait venir.
Malgré tout, il est venu à son secours.
Ouais, il a
fait des pieds et des mains pour qu'il vienne.
Oui, mais il y a plein de mecs qui retournent leur veste, les gars.
On sait que cette franchise n'est pas très bien gérée quand même depuis 2-3 ans.
C'est ça le problème.
Donc, est-ce que Russell Westbrook est réellement le problème des Lakers aujourd'hui? Tu dis non, toi.
C'est le front office.
Moi, la réponse est non. Cette équipe, elle est gérée scandaleusement par Rob Pelinka, qui est l'architecte de cette équipe-là et qui a encore prolongé de 2 années supplémentaires, qui a fait n'importe quoi après le titre dans la bulle, où ils ont déconstruit, et j'ai regardé tous les champions en titre, il n'y a pas une équipe qui a autant déconstruit que les Lakers après avoir eu une bague de champions. Exit les Javale McGee, exit les Dwight Howard.
Kyle Kuzma, c'est une...
Oui, mais Kyle Kuzma était dans un trade avec Russell Westbrook, avec Montrezl Harrell.
Justement.
Donc il y a trop de choix catastrophiques. Comment, aujourd'hui, un dirigeant comme Rob Pelinka peut... en ayant dans son équipe Russell Westbrook et LeBron James, se dire, j'ai pas besoin de grands shooters à 3 points. LeBron James est un créateur fantastique dans cette ligue-là et un fort passeur. Russell Westbrook, on peut en dire ce qu'on veut, c'est plus le joueur qu'il est aux Lakers, mais c'est un mec qui est dans la percussion, c'est un mec qui a fait des saisons à plus de 10 passes de moyenne, ça veut dire qu'il sait mettre le ballon, donc t'es obligé d'avoir des mecs en bout de chaîne qui mettent des paniers. Qui est le type qui a construit cette équipe? C'est Rob Pelinka et LeBron James. Parce que LeBron James aussi, Russell Westbrook est là, et LeBron James. Il y a une énorme erreur. Russell Westbrook, il a bon dos. Il a perdu toute envie, toute grinta. Il faut qu'il parte, en fait. Parce que l'année dernière, il y avait des problèmes, sa famille.
Mais là, il est intransférable.
Il est intransférable, il va falloir trouver une solution.
Ça dépend de ce que tu demandes de l'autre côté.
Il va falloir trouver une solution.
Ça peut plus durer. Dans le package aussi.
Ça peut plus durer, Russell Westbrook. Il a perdu sa joie de vivre, sa joie de jouer au basket. Sa famille peut plus venir quasiment au Staples Center sans être pris à partie. C'est terminé, Russell Westbrook. Alors oui, il est coupable de beaucoup de choses, mais je trouve qu'il a bon dos pour expliquer le niveau de jeu des Lakers sur ce début de saison.
Mais c'est plus facile Fred. D'attaquer Russell Westbrook que d'attaquer tout le reste du front office et du back office de tout le monde. En fait, tu cibles une personne, c'est ta tête de turc. Et c'est fini. En fait, c'est beaucoup plus simple, effectivement. Je suis d'accord. Moi, Westbrook, alors, on va pas se mentir, ça n'a jamais été mon joueur préféré, et ça ne sera jamais. Et évidemment, mais il est mis dans les pires conditions possibles. Comment veux-tu que ce mec s'en sorte? Effectivement, t'entoures pas ces deux gars, LeBron et Westbrook, de shooters. Enfin, c'est le B.A.B.A. Même nous qui n'avons pas ce genre de décision à prendre, on sait qu'il faut le faire. Donc, c'est à ne pas comprendre.
Moi, je rejoins Stephen sur Rob Pelinka, qui, on rappelle, était l'agent historique de Kobe Bryant avant qu'il devienne général manager en 2017. Et je crois qu'aujourd'hui, il est même vice-président de la franchise. Il a prolongé.
Ça n'est pas les fouilles, le bon.
Ouais, il est pas
il
mal.
Il a prolongé jusqu'en 2026. Et c'est vrai que ça, tout le monde a du mal à comprendre dans la façon dont les Lakers sont gérés. Et on peut, tu parlais du choix du coach, Darvin Ham, qui était l'assistant pendant quelques années de Mike Budenholzer à Milwaukee, qui était aussi assistant Lakers aux Hawks également, coach universitaire en tant que numéro 1, je crois, Texas Tech. Est-ce qu'il a l'étoffe pour coacher les Lakers? C'est pas n'importe quoi quand même, les Lakers. Et là, on prend un coach quand même rookie, alors on aime bien tenter ça.
Après, les coachs rookies, quand ça marche, on se pose pas la question.
Non, mais après,
dans ce gros foutoir à gérer avec ces stars vieillissantes.
Arnaud, quand tu coaches LeBron James, est-ce que tu coaches vraiment dans cette équipe en fait? Est-ce qu'il a déjà eu un coach qui a dit on fait ça et ça?
Eric Spolstra.
Le coach, c'est lui. Oui, mais
même
je suis d'accord.
Mais depuis, Pat Riley derrière, un D-Wade qui cadrait.
Depuis,
Spolstra a quand même été critiqué. Hein,
il a été critiqué, mais surtout personne.
Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein.
Personne
mais
ne coach
LeBron. Mais
t'avais
une grosse institution, Pat Riley, qui disait bon, c'est comme ça.
Oui, il était écouté par rapport à ça, mais sinon jamais. En fait, personne se permet de coacher.
David Blatt a essayé, puis hop.
C'est ça.
Fred a raison, Pierrot. Le vrai problème des Lakers, c'est pas Westbrook, c'est même pas Rob Pelinka. C'est d'avoir fait venir LeBron James. Elle est là la problématique. Et je vais faire une comparaison avec ton club de cœur, le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, LeBron James est passé au-dessus de l'institution Lakers.
Mais bien sûr.
Et c'est la plus grosse problématique de cette franchise-là. Il a mis en péril tout l'avenir de cette franchise-là. Il a 37 balais. Il a encore re-signé pour 2 ans à un montant astronomique. Et il a fait venir son pote Russell Westbrook, alors que LeBron James, c'est quand même quelqu'un d'intelligent dans le jeu. Pas une seule seconde, il s'est dit, Russell Westbrook, c'est mon pote.
C'est une mauvaise idée.
C'est
un shooter, etc.
C'est une mauvaise idée dans le jeu. Il est omnubilé par dépasser Kareem Abdul-Jabbar, sur le nombre de points. Omnubilé pour jouer avec son fils.
Plus que dans ça, hein.
Exactement. Donc LeBron James, Piro, c'est Kylian Mbappé.
Alors le seul truc qui peut le sauver, c'est qu'il est encore performant malgré son âge. Lui au moins.
Ouais, mais il est performant pourquoi? Justement parce qu'il veut briser des records. On a l'impression qu'il est performant que pour ça, gagner des matchs.
Mais collectivement,
il a plus d'intérêt du tout. En fait.
Il est performant, oui, dans les chiffres. Sauf que moi, ce que j'ai vu dimanche soir en prime time chez nous en France, c'est LeBron James qui prend un tir quasiment du milieu de terrain, 3 points, qui touche pas le cercle. C'est LeBron James qui ne veut pas défendre sur Damien Lillard sur la fin de match et Damien Lillard score. C'est LeBron James qui défend sur Jeremy Grant pour la possession du match. Il se fait dominer par Jeremy Grant, il prend un panier sur le museau. C'est LeBron James qui prend le tir de la gagne, qui marque pas. C'est LeBron James qui fait une passe à Damian Jones, qui est un jeune joueur, qui fait une erreur, qui rattrape pas le ballon. C'est LeBron James qui le regarde comme si c'était une sous-merde. Donc moi je veux bien, t'es le leader de cette équipe mon grand, t'es peut-être frustré parce que ton équipe elle est pourrie, mais montre d'autres signaux positifs, et justement cette équipe-là, porte-la et porte tes Chicago Bulls pour dire bah écoutez, si l'équipe elle est pas bonne, moi je vais vous emmener.
Alors après, dans les solutions qu'on peut imaginer avant de parler de trade, est-ce que Dennis Schroeder peut devenir...
C'est pas la solution, le Gremlins allemand.
Pourquoi?
Ah, parce que déjà, c'est pas un tireur à 3 points. Et de 2, c'est un mec qui est dans la percussion.
Je suis désolé, je suis encore sur la métaphore de Grimmie.
C'est un mec qui est dans la percussion, c'est un mec qui est porté sur l'attaque, c'est pas un spécialiste du tir à 3 points, et il est meneur de jeu, c'est pas le roi de l'organisation. Donc, Dennis Schroeder, c'est un bon joueur, mais c'est pas lui qui va régler les problèmes.
C'est pas une solution.
Non. La solution, c'est de trader. Et là, je vais encore aller loin, c'est Westbrook, et j'ai envie de te dire, tu trades Anthony Davis. Parce que c'est peut-être la seule valeur marchande qui va te permettre de récupérer des joueurs pour faire progresser. Parce qu'Anthony Davis, je l'aime bien, mais bon, à force de jouer 50 matchs par an,
il va falloir en parler aussi
d'Anthony Davis, qui a des années-lumière du mec qui était aux Pelicans, qui était peut-être la future star de la ligue pendant les 15 dernières années.
Anthony Davis passe
derrière beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs en NBA aujourd'hui. Notamment.
Je ne vais pas t'inquiéter, Stephen, mais la dernière rumeur envoie Westbrook à Dallas.
Ouais, fous-moi le camp.
Il y a eu l'Indiana aussi.
Alors là, je mets mauvais taux. C'est une blague.
Après, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même. Du coup, les Lakers, ça défend plutôt pas mal. C'est la deuxième meilleure défense de la ligue.
Ouais, voilà. Alors, vas-y.
Et ça peut pas shooter pire que ce que ça shoote actuellement. Honnêtement.
Arrête de shooter surtout.
Mais à un moment, leur pourcentage, il va augmenter. C'est impossible de shooter comme ça.
Mais le problème, c'est que ça devient psychologique, là.
Ah, mais par contre, oui, je suis d'accord. Mais il n'y a que 3 matchs.
Et quand ça rentre dans la tête, c'est plus compliqué. Est-ce que t'as vu Youssouf Nurkic qui se paluche devant Anthony Davis? Vas-y.
L'image, elle est catastrophique.
L'autre, il tire la tranche. Même sur le tir
tir controversé de Russell Westbrook, les mecs défendent pas sur Russell Westbrook.
Il laisse les shoots ouverts, c'est ça le pire.
Tu mets pas dedans, ça peut arriver, mais quand ça commence à te trotter dans la tête, c'est pas bon.
Alors après le trade de Schröder, j'allais dire de Westbrook, il est forcément entre guillemets au détriment des Lakers, c'est-à-dire ils doivent faire des concessions pour pouvoir se séparer de ce joueur-là.
Là, l'exigence, elle peut pas être très élevée, hein, pour Russell Westbrook.
Bah, il va falloir donner tes premiers tours de draft, déjà. Oui,
il va falloir accepter de trouver une équipe capable de reprendre, parce que je suis persuadé que Russell Westbrook, il est pas cramé. Il a besoin d'une équipe qui tourne autour de lui. Là, il sait pas quoi faire dans cette équipe-là.
Quel profil? Donc, c'est une franchise qui est à l'arrêt qui peut récupérer Westbrook. Pas une franchise qui tourne.
Non, pas une franchise qui tourne, mais il faut être une franchise capable d'assumer les 47 millions sur la saison, même si c'est sa dernière année de contrat, c'est quand même 47 millions.
47 millions, ça pique un peu.
Et ça fait beaucoup.
Il faudrait qu'il retourne à hockey ici, en fait.
Ah, bah, ici, je suis pas sûr qu'il soit dans cette,
dans
cette posture-là, mais écoute, je sais pas, mais il est trop malheureux, le garçon. Alors certes, il est pas bon, il a trop d'ego, mais il est trop malheureux. Rappelez-vous, Russell Westbrook, quand il joue, il a cette grinta, il a cette envie,
c'est là qu'il aurait pu apporter, justement, parce que s'il est de bonne humeur, il t'apporte de l'énergie, il va aller chercher des rebonds incroyables, il va aller dunker sur tout le monde. Là, le mec, effectivement, il est triste, et il s'arrête pour prendre un jumper comme ça,
alors qu'à sa grande époque, ces tirs-là, c'était money in the bank, les tirs à 5-6 mètres, Westbrook, quand il était au Casey, il mettait tout dedans, Pierrot.
Encore une fois, question de confiance.
Pour rappel, le trade qui fait venir Russell Westbrook aux Lakers le soir de la draft 2021. Donc, Lakers s'est échangé contre Montrezl Harrell, Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope. Quand même des joueurs qui peuvent apporter en rotation. Kuzma, starter.
Kuzma est en échec aux Lakers.
Il avait fait le tour de la question, on est d'accord. Oui. Ça faisait longtemps qu'il n'arrivait pas à donner...
Après, c'est plus facile de juger sur des mecs comme ça. Après,
Harrell, c'est vrai qu'il a été
très bon, etc. Oui. Donc, sur le coup, ça paraît pas un mauvais move, ça, en tout cas.
Alors, le Basket Time de la semaine est consacré aux Lakers. Nous sommes en direct sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, je vous le rappelle. Et le ton va monter d'un cran avec notre deuxième débat. Russell Westbrook est-il passé à côté de sa carrière.
One point game, half a minute to play. Lakers and Russ into the front court. Russell pull up. No, Russ, he missed it.
Alors, Russell Westbrook cristallise les problèmes des Lakers, on vient d'en parler, et c'est vrai qu'un joueur de 33 ans si talentueux que ce soit un problème, c'est surréaliste. Du coup, on se pose cette question. Russell Westbrook, MVP en 2017, est-il passé à côté de sa carrière? Arnaud, qu'est-ce qu'on va retenir de cette carrière de Russell Westbrook?
Drafté en 2008, il a donc 15 saisons de NBA dans les pattes, une moyenne de 23 points, 8 passes, 7 rebonds en carrière. Ce titre de MVP après cette saison en triple-double à Oklahoma. Collectivement, il y a cette finale NBA 2012 contre le Heat de Miami, le trio Durant, Harden et Westbrook. Harden s'en va juste après ça. Une finale de conférence 2016 face aux Warriors en 7 où là ils sont vraiment pas loin de passer, ils perdent 4-3. Départ de Durant à la suite, direction les Warriors. L'année dernière, donc là où Westbrook est décrié, tête de turc des Lakers, pourtant il fait pas une bonne saison, mais il signe un 18 points, 7 passes, 7 rebonds, 30% à 3 points, un surnom arrive, Westbrick, en référence donc au tir raté qu'il fait. Et c'est vrai que ça va pas changer cette réputation après le départ catastrophique des Lakers cette saison 0-3. Westbrook qui a fait 0 sur 11 contre les Clippers, il shoot à moins de 30% au total, 0 sur 9 à 3 points lors des deux dernières sorties. Bref, pour l'enfant de Los Angeles, on le rappelle, il est né là-bas, né à Long Beach, 2 saisons à UCLA à la fac, ses retrouvailles avec la Cité des Anges virent au cauchemar. Pourtant, si on prend vraiment sur le panorama, sur l'histoire, Westbrook est le 30e meilleur marqueur de l'histoire, 11e passeur de l'histoire et surtout leader incontesté du triple-double, près de 200 en carrière. Il est devant Oscar Robertson, Magic Johnson ou encore Jason Kidd.
Alors, est-ce qu'il est passé à côté de sa carrière, Stephen?
Je crois qu'on n'a pas la même définition d'échec de carrière. Quand je vois tout ce qu'il a pu accomplir, faire 4 saisons en triple-double, Champion olympique, on le rappelle, il est quand même champion olympique avec Tumé, c'est champion du monde aussi. Donc il a participé à des campagnes avec son pays. Quand t'es 9 fois All-Star, 2 fois MVP du All-Star Game, c'est compliqué de dire qu'il est passé à côté de sa carrière. Alors, parce que dans ces cas-là, moi je te cite 25 stars NBA dans l'histoire qui sont passés aussi à côté de leur carrière. Si tu résumes une carrière à un titre NBA, Pierrot.
Chris Paul.
Chris Paul, Steve Nash, Karl Malone, Joe Stockton, ces mecs-là, on peut, ils sont passés à côté de leur carrière.
Non, mais on n'a pas dit qu'on résumait une carrière à un titre NBA, justement.
Bah, donc pour moi, il passe pas à côté de sa carrière NBA. Et le problème, c'est que la vision de la carrière de Westbrook est ternie par son passage aux Lakers. Moi, j'ai jamais entendu un coéquipier dire du mal de Russell Westbrook. Au contraire, tous ses coéquipiers prennent sa défense, sont dithyrambiques sur son implication dans le jeu. À Houston, il accepte sans broncher d'être le numéro 2 derrière James Harden. Il arrive à Washington, il fait 4 mois en deuxième partie de saison. Éblouissant aux côtés de Bradley Beal, il ramène les Wizards en playoff. C'est un joueur particulier, oui, c'est un joueur particulier. C'est un athlète hors norme pour un meneur de jeu. Mais c'est un mec qui a une débauche d'énergie, qui a une passion débordante. Et l'envie qu'il a, tu peux pas la mettre de côté. Moi, je pense que tu peux partir à la guerre avec un mec comme ça et avec tout ce qu'il a accompli. On me dit qu'il a carotté de rebonds. Oui, il a carotté de rebonds, mais pour en prendre 11 de moyenne sur une saison, il faut plus que carotter des rebonds.
Sacrément, ouais.
Il y a aussi les attitudes.
Il a carotté des rebonds.
Parce que parfois on lui reproche au lancer franc sur des ratés lancer franc, venir passer devant ses pivots pour gratter un ou deux rebonds pour les stats, pour assurer des triples. Double. Mais oui, c'est plus la même ère qu'à l'époque et c'est peut-être plus simple de faire des triples doubles, mais là on parle d'un nombre incommensurable, c'est ce qu'il a pu faire au Russell Westbrook. Donc moi je trouve ça très sévère de dire que ce mec-là est passé à côté de sa carrière quand tu vois tout ce qu'il a pu accomplir.
Fred ?
Mais moi j'ai l'impression que son pire ennemi c'est Kevin Durant en fait. Parce que tu dis que Kevin Durant reste, il peut peut-être gagner un titre, peut-être que ça peut s'améliorer pour lui parce que finalement, je suis d'accord avec Stephen. Concrètement, quand tu regardes ses stats individuelles, tout ce qu'il a accompli lui à titre individuel, c'est fantastique. Il lui manquerait juste ce petit titre, en fait, entre guillemets. Donc je me dis que, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Il a quand même été deux fois meilleur marqueur de la saison, une fois meilleur passeur. Le mec a apporté dans tous les segments. Et encore une fois, moi, c'est vraiment l'archétype du joueur que je déteste, qui est vraiment le joueur NBA qui court dans tous les sens, qui est plus un athlète qu'autre chose. Sauf qu'effectivement, quand tu vois tous ses coéquipiers qui sont toujours dithyrambiques à son sujet, eh ben ça me fait changer d'avis. Je me dis que peut-être qu'il est pas si égoïste que ça, que peut-être que justement son énergie débordante, il la met au service de son équipe. Alors oui, il est bien sûr sur les stats, mais peut-être que il apporte énormément en énergie. Il est tout le temps à fond. Et c'est vrai que on est triste pour lui presque de le voir dans ce marasme des Lakers où en plus il est désigné d'office tête de Turc.
Pour moi, son pire ennemi. Arnaud. C'est pas Durant, c'est les différents dirigeants qu'il a eu et propriétaires. Parce que pour moi, si Russell Westbrook n'a pas de titre, si James Harden n'a pas de titre, c'est parce que le propriétaire d'Oklahoma, vous vous rendez compte, on parle d'OKC, petit marché. Ils avaient Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, ils font une finale. Serge Ibaka, on oublie, qui du coup a été prolongé à la place de James Harden, oui. À l'époque.
James Harden qui était sixième.
Steven Adams aussi à cette époque-là. Et en fait, en 2012, il y a une priorité qui est faite sur Serge Ibaka. Alors bon, on peut le comprendre, on voit le profil d'Ibaka, c'était pas un scandale de le prolonger, mais le propriétaire avait pas voulu payer davantage de luxury tax, parce qu'on dépassait le cap salarial, pour garder James Harden, qui est parti à Houston, où là on lui faisait un pont d'or. Mais ce trio aurait forcément été sacré. Il tombe qu'une année, finale 2012, qui est la première victoire du trio infernal de Miami, LeBron, D-Wade et Chris Bosh. Mais il aurait fallu insister. On peut pas en vouloir à Durant de partir en 2016 parce que, effectivement, ça faisait presque 10 ans qu'il était, 8 ans qu'il était dans cette franchise et on sentait qu'il y avait un cap et qu'il y avait pas.
Honnêtement, je suis pas le premier et le dernier à le dire que quand il va à Golden State, ça plaît à personne. Ça cheat un peu la ligue, etc.
Mais on peut pas
Donc on peut lui reprocher un peu.
Le départ d'OKC est une chose, l'arrivée au Golden State en est une autre.
Ouais, mais en fait, il part d'OKC pour aller au Golden State. Donc, oui, oui. Pour moi, il y a quand même un vrai lien entre les deux.
Après, pour son relationnel avec Westbrook, il a cohabité avec James Harden, il a cohabité avec Bradley Beal, il a cohabité avec Paul George. Rappelez-vous, quand Paul George arrive à OKC en provenance d'Indiana, tout le monde se dit il va faire un an et se barrer, et il prolonge. Et Paul George, dans ses déclarations, il dit « je prolonge ». Parce que je veux jouer avec Russell Westbrook. Ils ont créé un lien d'amitié. C'est-à-dire que ce mec-là arrive à fédérer autour de lui, arrive à créer de l'empathie.
Quand tu vois son jeu, ça paraît incroyable.
Les mecs ont envie de jouer avec et pour Russell Westbrook. C'est pour ça que c'est un personnage complexe. Et ce personnage complexe, tu peux te dire comment un mec qui a été MVP et qui a bouleversé la ligue par sa façon de jouer. Comment les dirigeants n'ont pas voulu pérenniser ce mec-là? Tu te retrouves avec un mec qui est bazardé de franchise en franchise. Tu vois, c'est ça la complexité. Ce mec-là a dominé la ligue, mais personne veut le garder en fait. Houston, Washington. Alors parfois c'est lui qui demande des trades, mais personne a envie de s'inscrire dans le temps avec un garçon qui a été dominant sur cette ligue-là. Donc c'est le paradoxe.
T'as l'impression, je pense que les dirigeants ont cette impression aussi, c'est qu'il est capable de faire beaucoup de stats, mais qu'il peut pas t'amener sur un titre. On a l'impression qu'il peut pas vraiment t'apporter ce petit plus qui amène une superstar.
Il y a une question sur Twitch qui est la suivante. Est-ce que on se souviendra de Russell Westbrook dans 10 ans?
Oui. Oui, avec ses triple double,
c'est un mutant quand même.
Le fait d'avoir fait tomber le record d'Oscar Robertson, le problème, il est là, et c'est pour ça qu'il est dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire, parce qu'il a fait tomber cette barrière qu'avait fait Oscar Robertson il y a 60 ans. C'est quand même hallucinant de faire 82 matchs, une saison complète en triple double. Alors oui, les gens vont me dire aujourd'hui, c'est tout pour l'attaque, mais il faut quand même les faire, les 10 passes et les 10 rebonds, Pierrot.
Ouais, mais il faut les faire. C'est indéniable, il faut les faire. Moi, ce qui me pose problème dans ce record, et surtout dans ce titre de MVP, c'est qu'en fin de compte, tu te rends compte de quoi? C'est que 2017, en fait, c'est le début de la fin. Et c'est-à-dire que jusqu'en 2016, tout va bien. C'est-à-dire qu'il est dans sa carrière, il performe, il est dans une grosse équipe. Alors, il y a des histoires qui viennent durant. À partir de 2017, c'est le début de la fin. Et en fin de compte,
attends. En 2017-2018, il est meilleur passeur de la ligue.
Attends, laisse-moi quand même aller au bout du raisonnement. Parce que j'ai regardé ses saisons à OKC. 2017, il est MVP avec une saison en triple-double, alors que la franchise n'a aucun impact sur la saison. C'est-à-dire qu'ils sont sixième à l'Ouest. Ils sont à 57%.
T'as vu son équipe, Pierrot?
Laisse-moi finir quand même. Ils sont à 57% de victoire, ce qui est le deuxième plus mauvais bilan d'OKC sur la décennie, et ils sortent au premier tour éclatés par Houston. Ce qui veut dire que, en fin de compte, on lui a donné le titre de MVP pour cette raison de record. Ce qui veut dire que, en fin de compte, c'est la NBA qui marche sur la tête. C'est-à-dire que c'est super de faire des triple-doubles, et il faut les faire, et évidemment, on va pas remettre en cause ses qualités. Mais en fait, il faut que ça aille un sens. C'est-à-dire qu'il faut que ces triple-doubles t'emmènent l'équipe quelque part.
Mais Pierrot,
et là, ça l'a emmené nulle part.
Ouais, mais tu la vois pas dans le bon sens.
Et à partir de ce moment-là, Westbrook n'a plus aucune influence sur la ligue. C'est-à-dire que les saisons de Westbrook sont totalement noyées dans le quotidien.
Il les ramène en playoff.
À Washington, si tu veux, mais on parle.
Bah, oui, mais
ça fait 5 ans.
Je suis pas d'accord.
Le mec, laissez-moi finir. Il a 33 ans. Ça fait 6 ans que le mec n'a plus aucune influence sur la ligue. Alors c'est sûr qu'il a fait un record de triple-double, machin, ce que vous voulez, mais dans une franchise qui donnait rien.
Pas d'accord avec toi.
Et pour moi, il est tombé dans le piège de la NBA. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui n'a aucun intérêt en fin de compte. Ce qui a d'intérêt, c'est quel impact tu mets dans la saison. OK, ici, en 2017, c'est 0+0, la tête à Toto.
C'est faux ce que tu dis. C'est faux ce que tu dis. Parce que cette saison-là, l'équipe, elle est catastrophique, Pierrot. Et Westbrook, il les emmène tout seul en playoff. T'as vu ses coéquipiers, c'est qui? Victor Oladipo, André Robertson, Steven Adams, Enes Freedom, Taj Gibson, Ersan Ilyasova. Ces mecs-là, ils font sixième de la conférence Ouest grâce uniquement à Russell Westbrook.
Victoires.
Parce que s'il n'y a pas Russell Westbrook, ils sont derniers de la ligue, Pierrot. Ton jugement, il est faussé parce que tu te dis, OK, si, ils gagnent pas beaucoup. Mais regarde cette équipe-là. Elle est pitoyable, cette équipe-là.
Il y avait Geoffrey
Lauvergne. Un argument pour moi, même s'il a voulu faire un petit cocorico. Et la problématique que tu dis sur cette bascule-là, c'est qu'il est arrivé à 27 ans ou 28 ans, Russell Westbrook, et qu'il s'est dit, maintenant je vais à la chasse à la bague. Et c'est là que sa carrière a pris un autre tournant. Il a été transféré pour gagner et pour être champion NBA avant de prendre sa retraite. C'est pour ça qu'il va à Houston, parce qu'il se dit qu'avec James Harden, il a une chance de prendre une bague. Ça marche pas. Il va à Washington, il se dit avec Bradley Beal, il faut que je fasse quelque chose. À OKC, il était dans l'accomplissement individuel et
les résultats collectifs ont été les meilleurs en fin de compte. C'est ça qui est fou.
Ouais, mais quand tu vas à Washington, il va pas chercher une bague. Hein.
Non, mais il demande son trade de Houston.
Il les amène en playoff aussi. Enfin, moi je trouve qu'il fait le taf quand même par rapport à ça. Il tire des équipes qui sont.
Après, c'est le visage. C'est le visage d'OKC. Il a porté cette équipe. Il a été lâché par Harden, Durant.
Pas Paul George aussi, qui l'a appelé. Premier coup de fil de Paul George, j'ai appelé Russell Westbrook pour m'excuser quand je pars aux Clippers, parce que j'étais triste, je le laissais tout seul.
Mais je suis désolé, moi je trouve qu'à la fin, le bilan, c'est à l'école, c'est insuffisant. C'est-à-dire que t'avais des qualités pour être le premier de la classe.
Mais les a exploités, ces qualités, Pierrot.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'il
pour moi, mais c'est un travail
le bilan, c'est insuffisant. C'est-à-dire
mais
que
non, individuellement, c'est pas insuffisant.
Mais oui, mais c'est ça, moi, qui
oui,
me rend fou. C'est
que
ça qui
m'en fout,
Fred, de ta
c'est,
part, de dire individuellement.
Oui, mais s'il n'est pas entouré, comment veux-tu qu'il ne fait pas des miracles?
C'est le problème, c'est le problème d'aller trop loin.
Je pensais pas défendre Russell Westbrook.
Dans le star system. On va trop loin. C'est-à-dire que c'est génial, les mecs qui font des stats. C'est génial, les mecs qui font du spectacle. Je suis le premier à adorer ça.
À manger la NBA.
Je suis le premier à me régaler de ça en NBA. Mais sauf que ça n'a plus aucun sens. Quand tu en arrives à l'extrémité Russell Westbrook, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que quand ta meilleure saison individuelle t'apporte le plus beau trophée individuel et que à aucun moment de la saison tu n'as la moindre chance d'être champion NBA, tout ça n'a plus aucun sens.
Il n'y a qu'une équipe, Pierrot, qui est champion NBA. C'est compliqué, donc à un moment donné, tu te fixes
ouais,
un deuxième
objectif. Tu peux être un contender, c'est-à-dire tu peux à un moment dire
mais pas, mais pas avec
attention,
pas
ils sont imprenables. Avec Westbrook,
on va pas d'entourer les mecs. Mais il faut juste
donc,
entourer
Pierrot,
les mecs.
Quand Kobe plante 35 points en 2006 parce que Shaq s'est barré, qu'il porte les Lakers et que les Lakers sont pas bons, on est d'accord.
Cata.
C'est Cata quand il fait ses 81 points à Toronto.
En fait, le problème, c'est que ce genre de choses nous fait oublier quel est le but d'un sport collectif.
Mais ton débat, Pierrot, il marche pour James Harden. On pourra l'avoir.
Exactement. Mais je suis d'accord avec ça.
Mais dans 10 ans, pour l'avoir
mais
pour Luka Doncic aussi s'il n'est pas champion NBA.
Pas forcément.
Si Luka Doncic il a 38-8 pendant 10 ans
oui, mais
qu'il ne gagne jamais un titre NBA, on pourra avoir la même réflexion.
Oui,
pas tout à fait. Exemple, tu m'as dit tout à l'heure Karl Malone, Allen Iverson et John Stockton. Mais
Charles Barkley, c'est pareil.
Charles Barkley, mais ces mecs-là, ils sont tombés sur un os, ils sont tombés sur Jordan, c'est la vie. C'est comme ça. Tu n'as pas de chance, mais ils ont fait tout ce qu'il fallait pour être champion. Et ben, je ne suis pas sûr que Russell Westbrook.
Les Warriors, c'est pas un os.
Pour être champion, je pense que depuis 6 ans, il ne fait pas tout ce qu'il faut pour être champion. Donc, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui ont un talent fou, qui est sous-exploité.
Mais il devrait faire quoi de plus pour toi ?
Je vais te poser une question.
Il devrait faire quoi de plus ?
Moi, si tu veux, son titre de MVP en 2017, je n'en ai rien à cirer.
Donc, le titre de MVP de Nikola Jokic, j'en ai rien à cirer aussi.
Alors.
Nicolas,
c'est un peu trop tôt quand même. Westbrook, il a 33 ans, on a l'impression.
Oui, mais à l'instant T.
Et moi, l'an dernier, le titre de MVP de Jokic, je l'ai remis en question. J'étais le seul, vous en souvenez quand même.
Oui.
Voilà, bon. Parce que d'après moi, quand tu n'as pas vraiment d'impact sur la saison,
et l'impact
ça
sur
n'a
la ligue.
Pas de sens
sur la ligue,
de te donner
énorme,
un titre en raison de ta performance
Jokic
individuelle.
Jokic a le même âge aujourd'hui que Westbrook en 2017.
Donc, moi, je suis cohérent. Oui, puisque l'an dernier, j'étais le seul à remettre
donc,
en cause le
donc,
titre
intéressons-nous, de Jokic. Intéressons-nous. Quel est Giannis Antetokounmpo, quel est LeBron James, quel ces mecs qui ont gagné des titres alors, Pierrot?
Les autres
n'existent pas alors.
C'est pas une question.
Jamal Murray n'existe pas.
C'est pas une question de gagner des titres, c'est une question de trajectoire. C'est-à-dire que quand je constate que ce garçon a tout pour réussir et qu'à partir de 20...
Il a tout pour réussir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'individuellement, il a tout pour réussir, mais pas collectivement, encore une fois. Donc il a pas tout pour réussir.
Collectivement, ok, ici, ça marche jusqu'en 2016.
Donc il a pas tout pour réussir.
Donc quand on pose la question, est-il passé à côté de sa carrière? Moi, je réponds oui. Parce que il a décliné beaucoup trop tôt, en fait, décliné dans le sens sur l'impact qu'il a sur la ligue.
C'est les carrières plutôt qui ont. Fait
bah oui, mais bon, décliner. Ça après, t'es dépendant un peu des oh, je suis d'accord, des politiques, des GM, etc. Bien sûr, tout n'est pas que de sa faute. Mais je trouve qu'à la fin,
Kelly qui se barre.
Je trouve qu'à la fin, le bilan c'est insuffisant, et je dirais pas ça de Karl Malone, et je dirais pas ça de John Stockton, et même pas de Allen Iverson. C'est des mecs qui ont été trop près du titre. Pour dire ça, alors que lui...
Je peux te dire que si j'allais à l'école, j'avais un bilan insuffisant comme Russell Westbrook sur le bulletin trimestriel, j'aurais été très
c'est
content.
Au regard de son potentiel. C'est au regard de son potentiel.
J'ai pas de potentiel à l'école, c'est ça que je veux dire.
J'ai pas l'impression, ouais. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est un gâchis, en fait. Immense gâchis.
Moi, je le trouve dur parce qu'encore une fois, j'aime pas vraiment Russell Westbrook, mais il faut entourer un mec. On le dit depuis le début, un mec pas entouré, il peut pas aller loin. Le mec, à chaque fois qu'il a commencé à être entouré, les mecs se sont barrés après.
Moi, je crois qu'il a été pris au piège de la NBA. C'est-à-dire qu'on
comme
va
beaucoup,
trop loin dans le
comme
délire.
Beaucoup,
comme beaucoup.
Comme
exactement.
Beaucoup de joueurs. Et la NBA aujourd'hui. C'est la prime au stat, Pierrot. La
et
prime
Doncic, au chiffre. Je suis pas d'accord.
Pourquoi t'es pas d'accord?
Parce que Doncic, il est en progression constante.
Ouais, mais son équipe. Titre.
Oui, mais son équipe progresse, malgré tout. On verra jusqu'où. Mais t'es pas obligé d'avoir un titre pour avoir réussi ta carrière. Alors, pour ta satisfaction personnelle, bien sûr. Mais, aujourd'hui, dans la trajectoire de Luka Doncic, moi je dis bravo et puis on verra ce que ça donne et peut-être qu'un jour il ira à la chasse à la bague en signant ailleurs, j'en sais rien, on verra bien, mais jusqu'ici tout va bien, tu vois. Moi j'ai aucun grief contre Luka Doncic, sa trajectoire doit l'amener au sommet.
Il perd quand même, là je viens de vérifier, il perd quand même 4 fois en play-off entre 2011 et 2016, 4 fois contre les champions. Les futurs champions, Dallas, les Warriors,
c'est ce que je te dis, jusqu'en 2016 tout va bien, après c'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est plus... là qu'on a dit, ah, oh, il est,
parce qu'il est tout seul, génial. Après donc, 2016.
En fait, il fait des triples doubles, mais s'il fait des triples doubles, sans gagner, rien.
Donc toi, tu tombes sur Westbrook parce qu'il a pas été capable tout seul d'amener une équipe au titre de champion NBA.
C'est pas ça, c'est qu'il y a un décalage entre son talent et sa carrière. Il y a un décalage entre ce que l'on magnifie chez lui et ce qu'il a accompli. C'est-à-dire qu'on magnifie quelque chose qui, pour moi, n'a
aucun intérêt.
Pierre, qu'est-ce qu'il devait accomplir d'autre? Tu viens de le dire. Ça n'a aucun relation avec
champion.
Tu viens de dire que le titre de champion, c'est pas.
Mais c'est ça le truc. C'est ça le truc qui lui manque.
Ben, je suis d'accord. Fait. Donc c'est quoi? C'est ma question.
Ce qui lui manque,
ben, donc, c'est qu'il
a tout. Il a tout gagné.
Qu'est-ce qui lui manque?
Ce qui lui manque, c'est d'avoir été au sommet lors de ses meilleures années. C'est-à-dire que on donne souvent en exemple Tim Duncan qui est resté aux Spurs contre des sacrifices financiers parce que l'essentiel était un collectif qui performe. Voilà quelqu'un qui a magnifié sa carrière.
Oui, mais un mec qui part à Houston en sachant qu'il sera numéro 2, il a pas magnifié sa carrière aussi? Non. En du disant, coup, je fais Pierrot, un effort, je me mets en retrait pour
moi,
avoir.
Je suis désolé, depuis 6 ans, ce mec n'a aucun impact sur la.
Du coup, saisons. Pierrot, toi qui es supporter du Paris Saint-Germain, c'est la même chose avec Zlatan.
Bah, ça fait partie d'un débat, bien sûr. Bien sûr.
Le problème, c'est que foot, il y a plus de possibilités de gagner des titres.
Oui.
NBA, soit t'es champion NBA, soit t'as rien.
Hein. NBA, c'est soit t'es champion, bah soit t'as rien gagné.
Mais non, c'est justement pas ça mon raisonnement. C'est ça que vous voulez pas entendre.
Mais explique-moi alors, parce qu'il a tout gagné.
Mais il a tout gagné quoi? Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer d'un titre de MVP où tu te fais laminer au premier tour et où tu finis
champion olympique?
C'est bien, bravo. Champion olympique, c'est bravo. Curry, c'est moi, tu me mets dans Team USA, je suis champion olympique.
Non, pas
aussi,
sûr. Hein. Pas sûr, parce qu'à un moment donné, si un mec a des fautes, ils vont te mettre sur le terrain. Pierrot, tu vas pas connaître le système corne côté, tu vas pas savoir où aller.
Je peux contrer avec le nez. Non, mais c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. C'est pas le fait d'avoir une bague ou pas. C'est pas ça. C'est la trajectoire qui va pas. Il a décliné collectivement au moment où il était le plus fort individuellement.
Mais parce que sa franchise est partie sur autre chose.
Sur le bulletin. Il a fallu qu'il.
À la fin, je mets insuffisant.
Il a fallu qu'il fasse plus parce qu'il était abandonné.
Signature des parents.
Esselé, Pierre.
Signature des parents.
Décapacité, mais pas
faire des statistiques. Voilà.
Si t'es tout seul pour faire le podcast, Pierrot, tu devras beaucoup plus parler, beaucoup plus.
Un jour, on va pas venir, Fred, Arnaud et moi, au podcast. Tu verras le nombre d'écoutes qu'il va y avoir.
On va faire. Pourtant, individuellement, t'auras fait ta meilleure émission.
Ta meilleure émission tout seul.
Avec Bigger Staff et ce sera très bien. Allez, on va passer à la suite.
Our top 10 weirdest jump shots in NBA history. And we start at number 10 with a big man. Former defensive player of the year, Marcus Camby there. Easily the best shooter of the bunch when it comes to putting up points, but Reggie Miller, the Knicks killer.
At number 5, Joakim Noah. Peak Joakim was amazing. He averaged 70% from the free throw line over his career with that form.
It's the Matrix. Sean Marion violating every guy to proper jump shooting, balance, ball position, arm extension.
And at number 1, it's Michael Kidd-Gilchrist, the current Charlotte Hornet, who I believe has improved this year, but old Kidd-Gilchrist with that form where both elbows are going to the left.
Alors, les Lakers sont à 21% au tir à 3 points, ce qui est une stat incroyablement faible.
Même toi, tu tires pas 21%, Pierrot.
Ah, 21% à 3 points.
1 sur 5.
Moi, je pense que t'as 7.
Là, je te mets sur
7,
un terrain à 3 points en tête de raquette. Sur... Ils y tirent, je pense que t'en mets 1. Et encore, c'est un malentendu.
Je suis pas sûr. Je t'ai dit, je suis à 7 ou 8% à 3 points. C'est-à-dire moins de 1 sur 10.
C'est-à-dire que t'en tires 100, t'en mets 7.
Peut-être.
C'est quand même catastrophique.
Ah, mais là, grave.
En même temps, je suis 1m75.
Et alors,
c'est pas une question de.
C'était pour essayer de m'échapper. Alors, donc, les pires shooters de l'histoire, parce que ça, c'est un sujet qu'on n'a jamais traité. Et je me suis amusé à voir une petite vidéo dans la NBA Le Secret sur les pires shooters de l'histoire. Je suis même pas sûr que Joakim Noah mérite d'être dans cette illustration. Tellement il y a des choses incroyables, des mécaniques de shoot absolument hideuses. Donc, vous allez me dire, chacun votre tour, qui sont les pires shooters de l'histoire. C'est toi qui vas commencer, Fred, tiens.
Alors moi j'ai choisi celui qui à l'époque représentait le pire shooter de lancer franc de l'histoire. Encore une fois, j'ai choisi dans la laideur plus que dans la réussite, hein, parce que le mec a fini quand même sa carrière à 77% lancé franc.
Pas mal.
Ce qui est vraiment pas mal, mais avec ce shoot, ça me paraît incroyable.
Les pires shooters, ils sont à 50%.
Oui, mais encore une fois, moi, c'est la laideur que j'ai pris en compte.
C'est intéressant.
Et c'était un peu l'insulte qu'on faisait, moi, quand j'étais joueur, quand t'étais vraiment très mauvais au lancer franc, on dit, mais tu shoots comme lui. Et donc, j'ai choisi James Williams Cartwright, plus connu sous le nom de Bill Cartwright.
Bill Cartwright, donc, qui a effectivement une mécanique assez incroyable.
Assez incroyable. Encore une fois, c'est un joueur qui était plutôt pas mauvais, qui a été drafté par Enix en troisième position, et il a été échangé contre Charles Oakley, quand même.
Donc, avec les Bulls à l'époque.
Les Bulls, et donc il a été champion 3 fois comme joueur, 2 fois comme coach, avec les Bulls encore une fois. Alors, Bill Cartwright, c'est assez simple. C'est déjà presque 10 dribbles avant son shoot. Donc ça commence très haut, ça baisse, routine, ça baisse, ça baisse, routine. Ça baisse. Une routine vraiment très très longue.
On est sur Twitch, je suis pas montré. Hein.
Ouais, ah oui, effectivement. Donc on est incroyable. Donc il se baisse. Ensuite, il a le dos complète à parallèle au sol pendant je sais pas combien de temps. Il a le ballon dans les mains, dos parallèle au sol. Et ensuite, d'un seul coup, il se redresse, il envoie le ballon très très haut au-dessus de lui. Et
il pousse,
mais vraiment, c'est assez catastrophique ce shoot. Par contre, encore une fois, 77% de réussite.
L'inspecteur Gadget.
Et en plus, le pire, c'est que tout est catastrophique, mais finalement, son fouetté est plutôt très très bon.
Bon poignet.
C'est drôle.
Très bon poignet. Et je te dis encore une fois, avec un pourcentage de réussite assez incroyable, mais vraiment, c'est le shooter de base qu'on critique et tu shoot comme Bill Cartwright. J'en ai juste un deuxième.
Attends, je vais donner la main à Steve qui va mimer le shoot de Cartwright, mais quand il sera à l'antenne de la chaîne Twitch d'RMC Sport, donc faut que tu parles.
Je parle, Pierrot, tu veux que je mime le shoot de Bill Cartwright?
Allez,
baby.
On commande, Stephen Bra qui va se lever.
Là, faut que je regarde sur l'écran.
Je dirais, il y a du décalage, vas-y, go. Voilà, il dribble, Stephen Brun, il fait un peu comme Djokovic, et là, il fait un gros soleil, dirait un swing de golf, et le fouet
exactement,
est pas
mais il le fait plutôt très très bien.
Alors, quel est ton deuxième choix?
Donc, j'en avais un deuxième, alors c'est juste pour la taquinerie, mais c'est le coach de l'équipe de France de 3-3, Karim Souchu. À chaque fois qu'il est... déjà, son shoot est très particulier, il le fait monter devant lui, etc. Et en plus, quand il shoot, on dirait qu'il prend une décharge électrique. Donc, c'est très impressionnant à voir. Lui aussi, plutôt des bons pourcentages, mais la décharge électrique, ça m'a toujours fait rire. Donc voilà,
il doit être content, Karim
Souchu,
Karim, s'il a téléchargé.
Qui était plutôt à droit, à 3 points d'ailleurs.
Le Basket Time de cette semaine. Steve.
Moi, il fallait que je fasse un petit cocorico bleu, blanc, rouge. Joakim Noah. Une des mécaniques les plus immondes de l'histoire de la NBA.
Avec coude vers l'extérieur.
Jambes non fléchies, ballon qui part devant les yeux. Les deux mains de part et d'autre du ballon. En fait, Joakim Noah, il shoot pas, il fait une passe au panier.
Il était bon passeur, donc.
Pour toi, il mérite d'être dans cette séquence.
Ouais, pour moi, il mérite parce que la gestuelle est quand même. Moi, j'ai vu des ralentis sur YouTube où il y a des mecs sur le banc après un lancer franc. Ils se regardent, ils disent mais comment ils tirent. Ils refont la gestuelle de Joakim Noah. Alors le pourcentage en lancer était pas si cata, 70% en carrière. Même si à New York, sa première saison, il a 43%. Tu sais, normalement, quand tu tires, Pierrot, le fouetté du panier fait que le ballon, il va tourner dans ce sens-là. Joakim Noah, le ballon, c'est une toupie. Il tourne dans ce sens-là et je crois que Joakim Noah, allez voir ce YouTube
vertical.
Vous tapez airball Joakim Noah et je crois qu'il a fait le pire airball de l'histoire de la ligue avec les Knicks. Normalement airball c'est quand tu mets pas assez de jambes ou pas assez de bras et que t'es trop court mais t'es dans l'axe du panier. Joakim Noah, il a fait airball. Il avait la bonne puissance. Il a fait airball, sauf qu'il y a une erreur de 45 degrés au niveau de l'angle. C'est-à-dire que le panier est là, il a tiré à gauche, Joakim Noah. Et le ralenti est incroyable parce que le ballon part, il a son visage qui fait « Oh merde !» Donc Jukes, tu m'as régalé, t'as mis quelques pantons, mais la mécanique, elle était quand même très compliquée.
T'as un autre nom à nous sortir ou c'était vraiment spécial,
Joe? Non, vraiment, vraiment spécial, Jukes.
Parfait. Arnaud, à toi.
Écoute, je suis pas parti sur la mécanique, sinon on aurait pu prendre plein d'intérieurs notamment. Bah, plus sur le fait, j'ai pris un ailier qui s'appelle Corey Brewer, qui a des pourcentages absolument horribles, alors que voilà, c'est un joueur, il faisait essentiellement que attaquer le panier et marquer. Je pense mécanique, je pensais par exemple aussi à un autre ailier, Caron Butler avec Dallas, qui avait aussi un shoot un petit peu bizarre.
Sean Marion qui est très cité sur la chaîne Twitch.
Sean Marion, ouais, pardon.
Avec Shaquille O'Neal.
Sean Marion.
Sean Marion. Mais j'ai pris Corey Brewer. C'est 800 matchs de NBA dans 8 franchises, beaucoup à Minnesota. Drafté en 2007, il sort d'une magnifique carrière universitaire avec Joakim Noah où il fait un back-to-back avec les Florida Gators, 2 titres universitaires de suite et il termine meilleur joueur de la saison 2006-2007. Mais il était quand même surnommé le Drunker Dribbler, le dribbler bourré et méché sous, parce qu'effectivement il avait tendance à tomber quand il attaquait le cercle et par contre au tir c'est catastrophique, 28% à 3 points et pourtant il a fait des saisons où il en prenait plus de 5 par match, notamment à Denver où il a shooté à moins de 30%. Voilà pour un ailier,
comment
pas
les
taper sur un intérieur,
ça me fascine, ça.
Ailier de 2m6 qui pour moi était complètement catastrophique,
au shoot, ouvert, il
pas en mécanique mais voilà dans le rendement qu'il avait, je trouvais ça un peu plus juste. Il a fait 3 saisons à moins de 70% lancé, pour un ailier de 2m6 J'ai pris le parti de pas les taper sur les intérieurs parce qu'on aurait pu prendre Will Chamberlain qui a à peine plus de 50%
ouais, lancé. C'est que Will Chamberlain, s'il était à 70% lancé franc, il faisait des saisons à 53 points de moyenne.
Mais on va quand même dire un mot de tous ces mecs-là.
Donc voilà, je voulais sortir un peu et viser Corey Brewer.
On peut pas finir cette séquence sans parler du chat.
Ou dans Scary Movie dans le film, le mec, pour sauver sa vie, il est obligé de mettre une brique dans un panier, il est pas capable de la mettre. Donc le mec, il avait quand même beaucoup d'autres dérisions en plus.
Le problème de Shaq, c'est que ses mains étaient tellement grandes qu'un ballon, c'était comme une balle de tennis. C'est très compliqué de tirer à lancer franc.
Et qui bossait pas.
Avec une balle de tennis. Ouais.
Il a fini à peine plus de 50%, ce qui est quand même fou.
Avec ton ami de Chuck Hayes, on a l'impression que Chuck Hayes, il y avait un mec. On a l'impression que Chuck Hayes, il était téléguidé par un mec qui avait une télécommande dans les tribunes et il tirait.
Ce qui est incroyable, Chuck Hayes. Là, oui.
Voilà, il faisait par intermittence, par à coup.
Je peux pas résister à en dire un mot. Le mec s'arrêtait au milieu de sa mécanique de shoot.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il commençait.
Ah, il y avait un mec qui appuyait sur stop.
Et il reprenait. Et il y a cette image incroyable.
C'est sur carré, ça.
C'est une sorte de Parkinson du lancer franc.
Exactement. Hop, le mec était keblo au milieu, comme si son cerveau s'arrêtait. Hop, une pause, arrêt sur image, il reprenait. Et je me souviens de cette image qui me fait à chaque fois pleurer de rire. Avec Allen Iverson, dans un match contre Denver, qui le regarde et qui hallucine. Il a envie de rire et il retient presque un fou rire. C'est-à-dire que même plus il va le trash-talker tellement le mec est au fond du trou.
Ah ouais.
La gueule d'Iverson qui le regarde comme ça, qui fait « Wow, mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là »
Chuck Hayes, c'est hardcore.
Incroyable.
Allez voir sur YouTube, là, vous pouvez googler tous ces mecs-là.
Bah, on peut parler de Ben Simmons aussi, hein, qui est au niveau du shoot.
Ben Simmons qui fait un beau début de saison avec les
deux fois six fautes. Est-ce que t'as vu comment les mecs défendent sur Ben Simmons?
Non.
Qui défendrait mieux sur toi, Pierrot.
Ah oui, parce qu'ils ont peur de rien.
Mais ils le cassaient pas, ou
la séquence est incroyable.
Il tourne la tête. Il tourne la tête.
Est-ce qu'on n'est pas sur une grande escroquerie là avec Ben Simmons?
Mais il apporte beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur le shoot, beaucoup moins.
La carrière de Ben Simmons était un échec.
Ah, on peut le faire la semaine prochaine si vous voulez. Hein. Allez, on va finir avec le quiz. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
Ma main, Kyle Quinn.
Qui était le coach du coach à l'université, pardon.
Coco-coach.
Coco-coach, absolument. Voilà.
Bon, t'es allé loin, là, maître Capello, enfin, les chiffres et les lettres. Sneakers.
Weston.
Si on est
Vance, fait. Converse.
Uniquement.
Mephisto. Smith.
Je sais pas, je comprends rien ton jeu, bon, je balance des noms.
Et André, mais c'est capta, là, je suis André.
Qui sera le Chuck Hayes de ce quiz?
C'est
ça peut être Fred. Fred qui s'arrête au milieu d'une réponse.
Bah, c'est Stephen.
Chuck Hayes. Et tu sais, comme on a parlé tout le week-end de Coucou Coach. Moi, merci beaucoup encore, hein. Vraiment, ça m'aide beaucoup.
Coucou Coach, c'est une petite Chuck Hayes, hein.
Ouais.
Alors, c'est donc spécial Lakers. On était sur les pourcentages catastrophiques au shoot des Lakers. Est-ce que vous savez qui détient le meilleur pourcentage à 3 points sur une saison aux Lakers?
Steve Nash.
Le meilleur pourcentage à 3 points?
Steve Nash, bravo. En 2012-2013 à 42%.
T'as vu comme il a kiffé de ouf. Alors, le mec, c'était la réponse de sa vie.
C'est pas forcément évident.
J'étais fanny le week-end dernier, la semaine dernière.
C'est
donc
vrai. Parce que Steve Nash a pas non plus, c'est pas la franchise dans laquelle il a plus joué, brillé.
Ouais.
Donc c'était un mini piège dans lequel n'est pas tombé Arnaud qui marque le premier point.
40% non, je crois.
Non,
42,2%.
Ouais.
En 2012-2013, lors de la draft 2012, deux joueurs de la même université sont choisis numéro 1 et numéro 2. Qui sont-ils? On a prononcé leur nom dans cette émission. Il s'agit évidemment, il y a un rapport avec les Lakers.
Kuzma?
Non. 2012, draft 2012. Donc, faut chercher des joueurs.
Je sais pas qui était.
Julius Randle?
Je vais vous aider en vous donnant le premier. C'est
Anthony Davis et Kyrie Irving.
Qui est numéro 1.
Ah, non. Pas aux Lakers. Alors, tu peux répéter la question?
Anthony Davis,
j'ai pas compris.
Anthony Davis, donc c'est Kentucky. C'est Duke, Kentucky.
Deux joueurs qui viennent de la même université. Il y a que Steve qui a capté la question. Ils ne sont pas draftés tous les deux par la même franchise, oui.
C'est
Kyrie Irving?
C'est Anthony Davis et Michael Kidd-Gilchrist. Ils sont tirés dégueulasses.
Oh, bravo, Steve.
C'est Kentucky, non?
Les Wildcats du Kentucky, c'est ça?
Oui, les Wildcats du Kentucky.
Excellent. Bravo. Elle était pas facile. C'est Michael Kidd-Gilchrist.
Lui aussi,
qui méritait d'être cité dans cette émission quand même.
Attends, Michael Kidd.
Avec une sorte de rotation des coudes.
Il y a un problème psychomoteur là.
Ouais, gros, grave problème. D'ailleurs, sa carrière s'est rapidement arrêtée. Il a fini à Dallas, je crois, celui-là.
C'est possible, malheureusement.
Mais il a à peine 30 ans, je pense.
Je crois qu'il a pas été rookie l'année, il me semble.
Enfin, il a arrêté avant ses 30 ans. Et comment c'est possible de se tromper à ce point-là? Je crois que c'est Kyrie Irving qui est numéro 3 de cette draft.
Kyrie Irving qui est numéro 3.
Quand tu passes entre Anthony Davis et Kyrie.
Mais c'est des paris, après, parfois, sur l'université.
Après, à la fac, il était monstrueux.
Très bon défenseur, gros défenseur.
Heureusement.
En plus,
ça dépend de ce dont tu as besoin aussi. C'est comme ça que c'est
draft. En plus, c'est la draft lockout, donc c'était un petit peu particulier
cette année.
Avec Lillard,
6ème de la draft, bon bref. C'est...
La draft post-lockout, pardon, celle d'après.
Ça fait un point pour Arnaud, un point pour Steve. Nous sommes toujours sur l'effectif des Lakers actuel. Quel joueur NBA était coéquipier de Dennis Schroeder lors de la saison 2012-2013 au fantôme de Braunschweig? Ça, c'est l'indice qui va vous permettre de trouver. Joueur actuel.
Thomas Bryant?
Non.
C'est un mec qui a joué en Allemagne, qui joue aux Lakers maintenant.
Non. Il est en NBA, mais il n'est pas aux Lakers.
Ah, il n'est pas aux Lakers. Ouais, j'ai
Boris Wagner?
Non.
Maxi Kleber?
Non, mais vous allez
Isaiah finir Hartenstein.
Par trouver, non.
Zubac? Non.
Vous allez finir par trouver, parce que là, vous êtes sur la bonne voie.
Franz Wagner? Maurice Wagner?
Non.
La Symphonie Wagner?
Je vais vous donner peut-être sa franchise à un moment, mais ça risque d'aller trop vite.
Quel Allemand?
Il soit Allemand, déjà.
J'aurais pu trouver son nom.
Ah oui, il est Allemand.
Ah oui,
il jouait à Boston l'année dernière.
Exactement. Daniel Tice.
J'avais plus trouvé son nom. Tice Weiss, ce n'est pas super difficile pourtant.
Tu l'avais, Fred, j'ai envie de te le donner.
C'est
mais
la spéciale Fred. Hein.
La passe d'ess.
Ça, c'est un grand classique quand tu as le nom.
Mais je
ne
trouvais plus le nom.
Il ne faut surtout pas montrer que tu sais en donner un indice.
Oui, mais c'est pas grave, au moins on avance quoi.
Tu l'aurais jamais trouvé? Ça ne serait pas revenu?
En plus, tu l'as dit à l'Eurobasket, tu l'as vu.
Oui, mais bien sûr, mais je savais exactement qui c'était, mais son nom ne me revenait pas.
Alors, je vais vous faire écouter une interview. Vous allez devoir deviner qui parle. Je vous donne juste un conseil. Essayez de comprendre les propos. C'est très court, mais c'est très significatif.
Just play it. I'm confused on like the team went on a run when I was at the game and then I came back in.
Yeah.
You saying what I was trying to do?
Russell Westbrook, absolument, sur son action contre les Portland Trail Blazers dont on a parlé en tout début de podcast. Alors, je vous ai passé cet extrait parce que c'est une interview dans le vestiaire après la rencontre. Et il a l'air complètement à côté de la plaque.
Oui, mais il est au bout du relax. Hein.
Non, mais on lui pose, les journalistes insistent un peu sur qu'est-ce que tu as voulu faire. Et il comprend, il veut pas comprendre la question. Il fait comme si tout allait bien, tout était normal, qu'il a pris un shoot totalement
en
lambda.
Il essaie de se protéger.
Il en prend tellement plein la gueule qu'il est obligé.
Ça fait limite de la peine parce que.
Moi, il fait de la peine. Hein, je lui dis tout de suite.
On voit qu'il est complètement largué.
Russell moi, je te donne la vitesse chez moi. Et faire une raclette.
De la peine à 47 millions, moi.
Oui. Je peux te dire que la vitesse chez moi, c'est lui qui paye le fromage à la raclette.
Alors, vous allez devoir deviner un coach des Lakers, bien entendu.
C'est une question.
Je vous donne son parcours dans l'ordre.
Luke Walton.
Et vous devez trouver le coach. Les Thunderbirds d'Albuquerque. Dervin Ham, bravo Fred. C'était tactiquement très bien joué ce que tu viens de faire.
J'ai tenté le coup. Exactement. J'ai même pas écouté ce que tu disais.
Donc, il a démarré aux Thunderbirds d'Albuquerque. Ensuite, il était adjoint aux Lakers, adjoint aux Hawks d'Atlanta, adjoint aux Bucks. Et donc, il se retrouve numéro 1. Alors, on en a
parlé. Il était joueur avant quand même, NBA.
Bien sûr. Pas un grand joueur non plus.
Champion,
il a joué à Dijon, avec son frère Bruno.
Ouais, il mange pas de porc, par contre.
Non, mais alors, on en a parlé dans l'émission, on va faire vite.
Arnaud comprend pas les blagues. Hein. Il mange pas de porc.
Si, Ham, le jambon, j'ai tout compris.
Je voulais en dire un mot parce que ce mec, je peux pas dire qu'il sort de nulle part, mais est-ce que c'est pas un peu trop pour
lui?
C'est
la mode des premiers assistants qui, se voient offrir un poste
c'est
de head coach.
C'est le cas à Utah aussi. Will Hardy, c'est son premier poste au Jazz.
Ime Udoka, c'était ça aussi. Exactement. À Boston. Et là, Joe Mazzuella, même si c'est de l'intérim à Boston, pareil. Hein.
3 points pour Steve.
Brad Stevens aussi, il sortait de fac, c'était son premier.
Un point pour Arnaud. Ouais. Un point pour Fred. La charade, c'est maintenant. Mon premier a du cash en tennis.
Mon second
est le prénom de l'entraîneur du Panathinaikos de 2018 à 2020. Mon troisième, les collines de mon troisième sont les plus chères du monde. Mon tout est un joueur des Lakers.
Pat Ravi, Austin Reeves, Matt Ryan,
Noon.
Alors, mon premier a du cash en tennis.
C'est pas de cash, non?
Mon deuxième est le prénom.
Patrick Beverley.
C'est une passe d'ess, je lui rends la passe d'ess. Merci beaucoup.
Tu lui rends la passe d'ess, absolument. Rick Pitino. Rick Pitino, entraîneur du Pana. Et toujours de la Grèce, il me semble, non?
Non.
Fini?
Oui, c'est Dimitri Soudis.
Ah, très bien. Finito. Donc, c'est Patrick Beverley et Fred remonte à un point de Steve. Alors là, attention. La dernière, elle est pas simple, mais franchement, elle est très intéressante. Parce qu'on parle de la plus grande franchise NBA, les Lakers. 11 numéros de maillot ont été retirés des Lakers.
Oh non, j'aime pas ça.
Combien pouvez-vous m'en citer? Alors, on va faire plus simple, parce que les numéros en soi, ça n'a pas grand intérêt. Vous allez bien sûr me citer le nom des joueurs. Et si vous n'avez pas exactement les numéros qui vont avec, ce ne sera pas grave. OK? Il y en a 11 en tout.
Pourquoi t'écris, toi? Tu peux pas dans ta tête?
Ouais.
Bah, parce que 4. C'est bien d'écrire. Alors,
moi, j'en ai 4.
Fred, aie confiance en toi, parce que franchement, la plupart 5. Sont extrêmement célèbres.
5.
5 pour ouais. Fred. Arnaud, non, c'est Arnaud qui donne la première enchère, excusez-moi. Ah, Arnaud. Ah,
bah, il va dépasser Fred. La première enchère. Fred pourra plus parler.
Bah, je vais tenter 5.
5. Est-ce que tu enchéris, Fred?
6.
6.
7.
7. Est-ce que tu enchéris, Arnaud?
Non.
Bah, je sais pas, 7.
7, t'as pas?
Non. Enfin, je crois pas.
Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je dis 8. 8, très abordable.
Ah, tu joues, toi?
Non, je vous donne un conseil. 8, très abordable.
Tu sais quoi, je vais tenter 8, mais juste pour te
attends, plaisir. Attends, t'es à 7, toi. T'as l'enchère max. Okay. Oui, est-ce que tu montes, Fred, oui ou non?
Plus d'enchère.
Je voudrais donner sa chance à Fred.
Non, c'est chaud, mais allez 8, ouais, parce que je suis fou.
Tu montes?
Non, je me suis déjà renoncé des enchères.
Je sais pas, apparemment tu veux que ce soit Fred, donc je...
Non,
Fred,
non.
Allez, 8, Fred.
Magic.
Oh là, Magic. C'est plus dur, ça.
Tu m'enchaînes les numéros, quand même.
Chamberlain, 32, ouais. Magic.
Ouais, c'est bon.
James Worthy, 42, je crois.
C'est excellent, il a les numéros, en plus. Hein.
McCann.
Non.
George McCann.
Non.
Jerry West,
c'est bon, le 44.
Kobe Bryant, avec ses deux numéros.
Excellent, c'était ça, la fin, ça te fait 2 points.
Le Shaq,
c'est bon.
1, on est à combien?
2, 3, 4.
Le logo.
5, 6.
Il l'a dit.
7.
Je l'ai dit.
Ah. On est à 7.
Ah, j'en ai un.
Baylor?
Je suis sûr. Ouais.
Excellent.
Elgin Baylor, oui.
On est à 8. Numéro. 22.
22.
Allez, continue. Parce que là, t'en as oublié un qui est.
On évident. Peut jouer du coup?
Ah, Karim.
Bah, Karim, bah, ça fait 9.
Je vais zapper Karim.
Voilà, les deux autres sont plus compliqués. Gail Goodrich
oui.
Et Jamal Wilkes.
Non, mais j'avais pas les deux là.
Et tu vois, si tu avais plus confiance en toi, tu gagnerais le quiz chaque semaine. Fred, je t'accorde la victoire. Bravo à toi.
Bravo.
C'est exceptionnel. Merci. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.